Mon travail est d'une certaine façon toujours la même chose, mais j'ai en moi un désir permanent de rupture et de changement. Il n'y a pas chez moi de programme. J'en suis incapable. Je commence quelque chose et au bout d'un temps, cette chose me lasse, à tel point que j'en ai un profond dégoût. Ça me dégoûte physiquement, donc j'ai un grand moment de vide, de grande tristesse. Et puis un jour, mais ça peut durer des mois ou même plus longtemps, je repars sur quelque chose qui m'intéresse à nouveau. Christian Boltanski est ce soir notre invité. Comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et nous avons choisi un titre de Barbara, Mémoire, Mémoire, interprété par Depardieu.
Mémoire. Oui. Mémoire. Oh, mémoire. Dans la folie recluse, où j'étais enfermé, ma mémoire en intruse vient de se réveiller. Dans ma vie sans soleil, ma mémoire appareille vers un passé soleil sur fond rouge vermeil. Ma mémoire me diffuse des images confuses et je m'en éblouis et je les reconstruis. Ma mémoire me balance le mal de votre absence. Ce souvenir d'enfer me brûle à cœur ouvert. Mémoire, mémoire d'un autre temps, d'une autre vie, tu me reviens dans l'eau du paysage. Se mirent vos visages en mémoire. Des aubes pâles, des matins pâles, tu me fais mal, mais tu me ramènes doucement ma vie recommencée. Oh, oh, mémoire, au bout de mes doigts, j'entends et je vois l'image d'un paysage dévasté. Comment ai-je pu quitter ce que j'ai tant aimé? Mémoire, tu me reviens. Oh, mémoire, tout me revient.
Avez-vous la mémoire en vrac, Christian Boltanski?
J'ai peu de mémoire. Mais en fait, je m'intéresse pas tellement à la mémoire, mais plutôt à la disparition. Et effectivement, qui parle de mémoire parle de quelque chose qui s'en va, qui s'atténue, qu'on essaie de garder, mais qu'on ne peut pas garder. Et disons, pour moi, c'est plutôt une des questions que je me pose, qui est cette contradiction entre l'importance que je donne à chaque être, parce qu'il est unique, et en même temps le fait que nous disparaissons si rapidement. Je veux qu'à la rigueur, on se souvient de son grand-père, mais jamais de son arrière-grand-père. Donc en même temps, chacun est tellement important, et en même temps, comment garder quelque chose, dont j'ai toujours comme ça pour que mon travail était un ratage total, parce que j'ai jamais. Forcément, on ne peut pas lutter contre l'oubli, on ne peut pas lutter contre la disparition. Et donc on peut garder des milliers d'heures d'enregistrement, on peut garder des centaines de photos, mais ça n'empêche pas que finalement il ne restera rien, il ne reste rien.
Pensez-vous qu'en tant qu'artiste, vous êtes par votre œuvre porteur de mémoire ?
On n'est pas porteur de mémoire exactement. Il est certain qu'une des grandes joies d'être artiste, c'est qu'on peut donner des émotions à des gens qu'on ne connaît pas et qui sont très loin de nous. Et que on peut imaginer, si on est optimiste, qu'après notre mort, quelques personnes verront ce qu'on a fait et auront une émotion. Donc effectivement, il reste quelque chose comme un vague souvenir de ce qu'on a fait, qui forcément ne sera pas exactement le même, parce que il ne sera pas vu de la même manière, parce que chaque époque regarde les œuvres d'art de manière différente, mais qui aura comme une sorte de vague trace de notre activité. Et en tout cas, c'est pour moi une grande joie de toucher des humains très loin de moi et que je ne connais pas.
Pensez-vous, dans votre existence, plus aux morts qu'aux vivants ?
Il y a encore plus de morts que de vivants, mais je crois que bientôt ça va se... Il y aura autant de vivants sur Terre que de morts depuis le début des temps. Mais non, je pense que chacun, chaque vivant, nous apporte beaucoup, peut nous donner beaucoup, et en même temps que chaque vivant va être totalement oublié, totalement disparaître. Vous avez fait beaucoup d'émissions. Et heureusement, il restera cette trace. Enfin, c'est ce qu'on appelle un peu des viandes froides quand la personne est morte. Il restera quelque chose. Mais
ça disparaîtra aussi.
Et ça disparaîtra aussi, mais pendant quelques temps.
Tandis que vos œuvres à travers le monde ne disparaîtront pas.
Ils sont relus d'une autre manière. D'abord, aujourd'hui, à peu près 80 à 90% des œuvres que je fais, je les détruis après. Vous savez, je suis souvent au Japon et j'aime bien ce pays. Et il y a beaucoup de temps, mais un fameux sanctuaire qui a peut-être 800 ans et qui est refait tous les 25 ans à l'identique. C'est-à-dire que je m'intéresse beaucoup à la transmission et il y a deux manières de transmettre. Il y a une manière par l'objet, par le petit bout d'os de saint, par la sainte relique, et puis une manière qui est plus proche des Japonais, qui est par la connaissance. Donc les temples sont constamment refaits, mais il y a des humains qu'on appelle quelque chose dans le genre trésors nationaux parce qu'ils savent le refaire. Donc il y a différentes manières de transmettre. Donc dans mon cas aujourd'hui, presque tout est détruit, mais pourra être rejoué, réinterprété plus tard. Et j'aimerais qu'on dise c'est une œuvre de Potanski jouée par monsieur un tel ou par madame un tel. Et on dira tiens, elle l'a bien joué ou elle l'a mal joué. Et donc, une grande partie de mon activité aujourd'hui est de fabriquer des sortes de partitions musicales qui seront à jouer et donc à modifier en même temps. Alors, tant que je suis là, je peux jouer ma propre musique. Par exemple, l'œuvre que j'avais faite au Grand Palais, qui s'appelait Personne, a été montrée à Milan, à New York et à Tokyo. Mais naturellement, on n'a fait aucun transport. Et
parce que c'est sur place que vous trouvez vous-même les éléments qui vont constituer votre nouveau travail.
Parce que c'est sur place et aussi parce qu'à chaque fois il s'agit d'une sorte de collage avec le lieu. Et donc pour moi, l'endroit où je l'ai mieux interprété, c'était à Milan.
Pourquoi ?
Parce que l'espace me convenait mieux, parce que peut-être j'étais plus en forme. On peut imaginer plus tard que quelqu'un d'autre va l'interpréter. Là, d'ailleurs, je pars à Shanghai bientôt et je vais l'interpréter à Shanghai. Et donc, à chaque fois, ce sera une autre interprétation. Et de toute façon, quand on fait ce genre d'œuvre, c'est un peu comme un opéra. La musique est déjà faite, qui est l'espace, et on rajoute des paroles.
C'est comme une variation.
Et là, donc, c'est une sorte de variation. Oui, on peut interpréter une symphonie pour un grand orchestre et la réduire à un quatuor.
Ce que vous faites depuis une bonne trentaine d'années, même si vous avez commencé depuis plus longtemps, Christian Boltanski, s'apparente à quelque chose qui existe profondément, qui nous bouleverse au plus intime de nous-mêmes, qui nous fait réfléchir pendant longtemps après avoir vu votre travail. Et pourtant, vous détruisez vos œuvres. Est-ce que c'est parce que n'importe qui pourrait recommencer ce que vous avez fait ?
Parce qu'il s'agit, si vous voulez, la beauté de la musique, c'est que c'est à chaque fois réincarné par celui qui l'interprète. Et donc, j'ai ce désir-là, sans doute, que chacun s'en empare, que chacun puisse la jouer, parfois modestement, parfois avec un grand orchestre, mais puisse rejouer mes œuvres. Donc, il ne s'agit pas de l'objet sacré, il s'agit d'une transmission par une connaissance, par une règle du jeu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'essayer de créer des mythes, des légendes.
Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe en ce moment même au Japon ? Vous avez fait une œuvre il y a maintenant combien ?
Une dizaine d'années, oui. Par exemple, là, dans cette île qui s'appelle Tishima, dans la mer du Japon, je conserve des battements de cœur. Et aujourd'hui, on est autour de 120 000 battements de cœur qui sont conservés là. Donc, si vous y allez, Vous dites, je vais écouter le cœur de ma grand-mère, Madame Machin, et on appuie, il y a des gens qui vous aident, il y a des ordinateurs, et vous pouvez entendre le cœur de votre grand-mère. Naturellement, vous sentez beaucoup plus l'absence de votre grand-mère que la présence. Hein, parce que le fait d'y aller, par exemple, n'est pas indispensable, à part que le lieu est très beau, effectivement, mais peut-être qu'il est plus intéressant de savoir qu'il existe, ce lieu. Et pour les Japonais qui viennent assez fréquemment, c'est devenu une sorte de lieu de pèlerinage où ils viennent écouter un parent. Et donc le fait que ce soit un artiste qui ait fait ça, finalement, n'a pas tellement d'importance et ça devient plutôt comme une sorte d'histoire. De même qu'il y a cet homme qui a acheté ma vie en Tasmanie et qui possède des centaines, des milliers sans doute d'heures de ma vie.
Donc c'était à la suite d'un pari.
C'était pas un pari, c'est-à-dire que mon atelier où je vis est filmé par des caméras de surveillance jour et nuit, que je sois là ou pas là, et tout est envoyé en direct en Tasmanie. Et là, il préserve tout, on peut voir en direct ce qui se passe.
C'est un homme qui a acheté votre vie.
Il a acheté ma vie. Et donc, il y avait une petite chose plus amusante, c'est que comme cet homme est un joueur professionnel, je lui avais vendu ma vie en viager. Et on avait fait un contrat, etc., très sérieux, avec notaire et médecin. Et pour lui, je devais mourir il y a quelques mois. C'est-à-dire que pour la somme que je lui avais demandé, il a remboursé la somme que je lui avais demandé petit à petit. Et donc maintenant, j'ai dépassé cette date, donc l'œuvre lui coûte plus cher qu'elle lui aurait coûté normalement s'il l'avait acheté directement, pas en viager, comme tout bon viager d'ailleurs. Mais là aussi, c'est d'y aller, si on y va, on voit une sorte de bunker-caverne et avec beaucoup de moniteurs, et on me voit me gratter le nez, ce qui n'est pas très intéressant. Et ce qui est peut-être plutôt intéressant, c'est de savoir que ça existe. Récemment, je viens de faire un travail assez difficile en Patagonie du Nord, où j'ai installé des énormes trompettes dans un endroit extrêmement désert, et avec un acousticien, quand le vent s'engouffre dans ces trompettes, ça fait la parole des baleines. Et en tant que tel, personne ne pourra jamais voir ces trompes. Un jour, il y aura une grande tempête, ces trompes vont s'effondrer. Mais peut-être que dans plusieurs centaines d'années, quand mon nom sera totalement oublié, il restera la légende qu'il y a un homme qui a essayé de poser la question ultime aux baleines. Parce que pour les Indiens d'Amérique latine, les baleines sont les animaux qui connaissent le début des temps. Donc, il y a cette histoire où j'ai mis des centaines de clochettes qui s'appellent Animitas dans le désert d'Atacama. Et là aussi, c'était toutes les amérantes. Alors naturellement, ça c'était déjà il y a 3 ans, je crois. À mon avis, toutes les clochettes se sont envolées. Mais peut-être qu'on va dire, il y avait, c'est parce que ça reposait à la carte du ciel, il y avait quelqu'un, un fou, qui a parlé aux âmes à cet endroit.
L'œuvre d'art n'est pas pour vous, Christian Boltanski, forcément visible par des regardeurs. Elle peut s'annihiler d'elle-même et disparaître sans laisser de traces. C'est l'artiste qui décide.
Elle peut rester comme une légende. Elle doit exister. Par exemple, je ne sais pas, il y a sous la cathédrale de Salzbourg une horloge parlante qui dit l'heure, il est 5 heures, 10 minutes, 3 secondes, etc. Bon, ce qui m'intéresse, ce qui était assez compliqué à réaliser parce que l'évêque de Salzbourg n'était pas très content, mais finalement, ce qui m'intéressait, c'était que cette chose existe là. Et elle existe sans moi, elle existe là. Et chacune, la discussion avec les baleines ou l'horloge parlante sous la cathédrale sont des questionnements pour moi. Je disais à l'évêque que pour moi, Dieu était le maître du temps. Donc il était normal que le temps soit dit. Chaque fois, les battements de cœur. Et pour dire que chacun a un battement de cœur un peu différent, mais qu'en même temps, comme je le disais tout à l'heure, si on va les écouter, ça sera un jour l'île des morts, parce qu'il y a de plus en plus de morts enregistrées, forcément. Mais quand on va les écouter, on sent plus l'absence. Là encore, on ne peut pas sauver quelqu'un même en gardant son cœur. Donc chacun de ces projets est lié à un questionnement dont, heureusement, je n'ai pas de réponse. Je n'aime pas les réponses.
Au fond, depuis plus de 40 ans, Christian Boltanski, vous créez pour reculer la mort. Et vous êtes un grand ordonnateur du temps.
Non, parfois pas pour... Enfin, parfois je me dis que je suis un enterreur. Parce que je crois à la puissance des mots et que le début de l'humanité a commencé quand ils ont enterré leurs frères ou leurs parents.
C'est-à-dire très tôt.
Très tôt.
On a encore eu des découvertes très récentes.
Et je crois que...
C'était le premier geste de l'être humain.
J'étais très frappé par le film Le Fils de Saul récemment, et où il fallait dire les mots. Et finalement, j'ai fait beaucoup de livres avec seulement des listes de noms. D'ouvriers dans une usine anglaise au 19e siècle, ou de Suisses morts. Parce que je pense que de nommer, de dire le nom de quelqu'un, est dire justement son unicité et qu'il était humain, enfin qu'il existait. Et donc, en une certaine mesure, il y a un livre que j'ai illustré quand j'avais, je sais pas, 17 ou 18 ans, d'un poète qui s'appelait Olivenstein, qui s'appelle L'Enterreur. Je me suis dit finalement que j'étais peut-être un enterreur. Mais en ce sens de... Oui, chez moi, j'ai, 6 000 Suisses morts, 8 000 bébés polonais, vivants, j'espère, mais, parce qu'ils ont un jour... Sur les images que j'ai. Enfin, j'ai beaucoup de monde chez moi. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et tout cela, je les considère justement dans cette idée d'identité et d'unicité.
Oui, mais n'est-ce pas dû aussi ce travail? Ne trouve-t-il pas ses sources à l'intérieur d'une enfance très compliquée sur le plan de la mémoire, de l'histoire et du silence, puisque vous avez vécu avec vos frères dans un appartement à Paris, avec une mère qui vous a dit que votre père était mort alors qu'il était caché?
Bon, moi, je suis né juste après, parce que j'ai dû être conçu pendant ces périodes d'occupation, et je suis né le 6 septembre 1944, donc juste au tout début de la libération.
Donc ça veut dire que votre père et votre mère se sont retrouvés dans la nuit, dans la cage?
Certainement, et j'ai toujours dû être fabriqué dans un endroit extrêmement petit, pour ça que je ne suis pas très grand. Mais... ce qui est certain, et ça, mais c'est comme ça pour moi de toute œuvre, c'est que, comme je vous disais, il y a une sorte de trauma, et sans doute que mon trauma a été cette histoire et l'écoute très très jeune d'amis de mes parents qui étaient des rescapés de la Shoah. Là-dessus, c'est un point déterminant, mais avant tout, être artiste, c'est être universel. J'aime beaucoup Louise Bourgeois, et Louise Bourgeois a eu ce trauma avec son père, et en même temps, on peut aimer les œuvres de Louise Bourgeois, qui sont splendides, sans savoir cette histoire, et sans soi-même avoir eu quelqu'un problème avec son père. Donc c'est vrai, et en même temps, heureusement, je raconte tout ça, comme je disais, je vais souvent au Japon, une des premières fois où j'exposais au Japon, les Japonais qui sont très gentils me disent « Mais votre art est totalement japonais, et d'ailleurs, vous devez connaître la culture japonaise parfaitement, ce qui n'était pas vrai du tout, et vous faites un peu japonais, vous devez avoir un grand-père japonais. » Et j'aurais dit non, mais j'étais très heureux, parce qu'ils avaient relu mon travail avec leur propre vécu, ils s'étaient reconnus. Et si on peut aujourd'hui lire Proust, c'est parce qu'il ne parle pas de lui, mais il parle de chacun d'entre nous, et que chaque personne peut le reconnaître. Et que sans doute chaque habitant de la Terre peut le reconnaître, parce qu'il parle de choses aussi simples que d'être jaloux, que d'être inquiet parce que sa mère n'est pas là, oui, que d'avoir un oncle ridicule. Donc je pense que chacun peut se reconnaître. Quand j'étais plus jeune, je disais toujours, mais maintenant je trouve ça un peu trop poussé, que... l'artiste était quelqu'un qui avait un miroir à la place du visage et que chacun qui le regardait se reconnaissait et se voyait lui-même. Donc ça doit être un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'en même temps, le métier que je fais est forcément ne peut parler que de soi-même, mais chacun doit dire « Ah, comment c'est-il ça sur moi ?»
Quand vous étiez adolescent, vous avez commencé à construire certains petits objets avec de la pâte à modeler ou avec des supports comme ça très très fragiles. Ensuite, vos parents ont essayé de vous inscrire dans une école d'art. Personne n'a voulu de vous. On vous prenait pour un idiot. Vous avez continué. Petit à petit, vous avez commencé à faire d'abord de la photographie, puis ensuite votre art s'est orienté autrement. À partir de quand avez-vous commencé à croire en vous ?
Vous savez, d'abord j'ai été très très demeuré. Je suis resté, mais là j'étais vraiment...
Vous dites idiot.
Idiot. Et donc, un jour, je fais comme ça un petit truc en pâte à modeler, un petit dessin, et mon frère plus âgé me dit « tu as fait une chose bien ». C'était la première fois dans ma vie où on me disait ça, on me disait que j'avais fait une chose bien. Et donc, je me suis dit « je vais continuer, ça doit être mon destin ». Et donc, j'ai continué, comme j'avais des parents très ouverts et très gentils, j'aurais dit que je voulais peindre, ils m'ont acheté des peintures, j'aurais dit que je voulais peindre sur bois, ils m'ont acheté des plaques de contreplaqué. Et puis, j'ai fait beaucoup, beaucoup de tableaux qui sont heureusement détruits. Il n'y a pas de... Je pense que j'avais des difficultés à parler à ce moment-là et que l'art visuel était un moyen de m'exprimer. Et vous savez, je crois que j'ai aussi la chance parce que je pense qu'il y a beaucoup d'Einstein qui vendent des cigarettes en Afrique et de Mozart qui jouent sur un carton à New York. Et oui, j'ai aussi beaucoup de chance de pouvoir... commencer dans cette voie et la continuer. Mais je crois d'un autre côté que si je n'étais pas né au XXe siècle à Paris, j'aurais peut-être été chaman en Amazonie ou peut-être rabbin en Ukraine et que finalement, ça n'aurait pas été tellement différent. C'est-à-dire que le questionnement aurait été le même.
Vous avez publié plusieurs livres sur votre travail, dont un qui s'intitule « La vie possible de Christian Boltanski » avec Catherine Grenier. Dans ce livre, vous parlez de vos amis. Vous avez des amis très proches, avec qui sont des artistes le plus souvent, avec qui vous ne parlez pas forcément d'art, mais avec qui vous partagez beaucoup d'idées. Parmi eux, Sarkis. Nous allons écouter ce qu'il dit de vous.
Il avait un artiste allemand qui m'intéressait énormément. Bon, qui s'appelle, il est très connu maintenant, il s'appelle Joseph Beuys. Et je peux dire que j'ai pu lire son travail à partir de ce que j'avais appris comme lecture de Beuys. Donc c'était le passé qui était raconté d'une certaine façon. C'est un passé douloureux, mais en même temps, autant chez Beuys, la douleur du passé reste dans la douleur, autant chez Christian, il y a un côté, je dirais, chaplinesque. C'est-à-dire qu'il y a la comédie et le drame ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment, on passe de l'un à l'autre. Et aussi, on ne sait pas, est-ce qu'on est dans la réalité ou dans la fiction. On va de l'un à l'autre. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. En fin de compte, je cherchais à ce moment-là quelques jeunes artistes pour monter des expositions, pour proposer des... parce qu'en fin de compte, la situation... de la peinture en France, j'étais pas trop ému avec ça. Donc, c'est des artistes plutôt qui font un travail, à cheval entre le documentaire, la fiction, les films, les objets, tout ça qui m'intéressait. En fin de compte, c'est un projet que c'est Christian qui a amené. Il y avait un film qui devait être fait et lui, il a proposé à cette personne de faire le film. C'est une conversation sur ces moments de fin des années 60, c'est-à-dire 69, 70, avec moi. Donc on était les deux personnes qui connaissaient, qui avaient vécu ces moments-là très très intensément. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais... ça va faire un film, s'il y a des montages, j'en sais rien, mais voilà. On a gardé, de certaines amitiés, effectivement très liées à notre passé commun, c'est-à-dire des années 69, 70, 71, ces trois années-là. Voilà. On se regarde, donc on se comprend, quoi. C'est quand on parle, il y a tout dedans, quoi. Voilà. Donc vous l'embrassez de ma part, voilà.
Vous parlez beaucoup de chance, Christian Boltanski, dans votre travail. Vous parlez beaucoup de in situ. D'ailleurs, les œuvres que vous faites à travers le monde dépendent du lieu où elles vont être exposées. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut employer ce terme d'exposition à propos de votre travail et si vous l'acceptez. Est-ce que vous avez eu l'impression d'arriver dans un paysage artistique à l'aube des années 70 pour casser un peu la baraque ?
Non, pas du tout. On est toujours lié à un temps de l'histoire. Et c'est même une chose qui est certaine, c'est qu'on est soi, on a sa personnalité, mais forcément, on est lié à une période de l'histoire. Il n'y a naturellement aucun progrès en art, mais il y a un déroulement, et ce déroulement est souvent lié au monde. Et on peut reconnaître un artiste comme Watteau d'un artiste comme David. C'est pas très uni dans le temps, mais il s'est passé beaucoup de choses entre les deux. Et donc, forcément, je suis arrivé à un moment de l'histoire de l'art et du déroulement de l'art où commençait le minimal, le conceptuel, et donc je me suis servi de ce langage.
Vous l'avez détourné aussi très vite.
Oui, je m'amuse toujours à dire que je suis un minimaliste sentimental, ce qui est une chose totalement ridicule. Mais c'est vrai que chez moi, j'ai un tempérament sans doute plus expressionniste, et j'ai eu cette chance, en tout cas ce hasard, que l'art qui était l'art qui m'entourait et qui m'intéressait était un art beaucoup plus froid que mon tempérament. Donc ça a refroidi sans doute le travail que je faisais. Quand vous dites exposition, aujourd'hui ce que j'essaye de faire, mais je pense depuis longtemps, vous savez, quelquefois quand on est dans les pays du Sud, il y a une église et puis les portes sont ouvertes. Et puis on entre, et là il y a un monsieur qui lève les bras, il y a une odeur, et il y a une sorte de musique, il y a des choses à regarder. On ne comprend pas du tout ce qui se passe, mais on s'assoit et on sait qu'il doit se passer quelque chose, et en tout cas que c'est un moment un peu en dehors de la vie, un peu on peut se retourner sur soi-même. Et puis on reste là 10 minutes, puis on repart, et on repart au soleil, et on repart avec les voitures, et on va aller déjeuner. Et donc... finalement, ce que j'aimerais que les gens voient dans mes expositions, c'est un petit peu ça. C'est quelque chose dont on n'a pas à comprendre tout, mais on se sent dans un lieu qui pose des questions. Et soi-même, on s'assoit et on se pose quelques questions, puis après ça, on retourne à ses occupations. Donc c'est... Mais pour retourner à Sarkis, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie parce que les artistes, j'ai connu beaucoup de gens qui m'ont beaucoup aidé. Et les artistes ont été très fraternels avec moi. Je veux dire que Sarkis m'a beaucoup aidé à mes débuts. Il y a eu d'autres artistes qui m'ont aidé par la suite. Donc, il y a dans le. En tout cas, moi, j'ai toujours ressenti une fraternité chez les artistes. Parler encore de ce que vous avez dit de la chance. Moi, je pense que j'ai eu de la chance. Mais il y a une de mes œuvres qui s'appelle Chance, qui a été montrée à Venise il y a 6 ans. Et je m'intéresse beaucoup à le hasard ou à la destinée. Et donc, qui sont en fait des questions religieuses. Enfin, si on croit à la destinée, c'est que les choses sont écrites et que quelque chose nous dépasse. Et sinon, c'est seulement le grand magma. En tout cas, cette pièce était des images de bébés polonais qui tournaient sur une rotative, comme les rotatives qui impriment les journaux. Il y en avait, je crois, 3000 bébés polonais. Ça tournait très, très vite. Et un ordinateur aléatoire faisait que ça s'arrêtait à certains moments. Et donc, un bébé était mis en avant. Et une des questions que je posais était le fait que si mes parents avaient fait l'amour 3 secondes plus tôt, j'aurais été autre. Et que ce qui semble important pour chacun de nous qui est nous-mêmes est lié totalement au hasard. Donc, comme vous voyez, toutes ces questions, je les ai posées pas par des paroles, mais par des sensations, par des sons, par des images, par des... Et peut-être que la beauté de travail plastique, c'est que c'est moins précis que les paroles. Et justement que chacun peut plus s'y retrouver parce que c'est moins précis. Que seule la poésie est précise et imprécise. Mais disons, le roman est plus précis. Et là, dans l'art, on ne sait jamais trop et chacun peut donc se poser devant et prendre ce qu'il a besoin de prendre.
Votre père était juif, votre mère catholique. On a l'impression que dans votre travail artistique, Christian Boltanski, vous procédez par vision, voire par illumination, pour employer un terme rimbaldien, et qu'il y a un côté presque mystique dans votre travail.
Je ne suis pas croyant, Dieu m'en garde, mais je m'intéresse beaucoup à ces questions, mais je crois que tout être au monde s'intéresse à ces questions. La seule chose qui est de plus en plus pour moi, c'est que je pense que autant une question est importante, autant de penser qu'on a une réponse est extrêmement dangereux. Et donc, il y a, d'ailleurs dans certaines traditions, même dans la tradition juive, où une question amène une autre question, et où on n'est pas forcé de croire en Dieu, mais on doit chercher Dieu et pas forcément croire en Dieu. Et je pense que chez les bouddhistes, c'est un petit peu la même chose. Donc, il y a des traditions qui sont plutôt des lieux de recherche. Mais disons, je me méfie des certitudes, et je pense que quand on pense avoir raison, on devient dangereux.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez Le Choix musical de Christian Boltanski, Georges Ligeti. Merci Christian Boltanski de nous avoir permis d'écouter Ligeti. C'est aussi la bande-son de ce film qui s'intitule Eyes Wide Shut. Pourquoi ce choix ?
Je trouve que c'est tellement en même temps apparemment simple, extrêmement peu de moyens, et que c'est une des musiques les plus terrifiantes. que je connaisse et les plus porteuses de questions. Et tout ça sans aucune grandiloquence, je sais, presque une musique d'enfant. Enfin, c'est un enfant qui joue sur un piano. Enfin, pour moi, c'est une des musiques que je préfère. J'ai fait pas mal, enfin plusieurs spectacles musicaux avec des amis, avec Frank Krapschik, qui est un jeune compositeur, et Jean Kalman. Et pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup appris. Parce que ce qui est beau quand on fait ça, bon, c'est des choses, j'essaie toujours de mêler les arts du temps et les arts de l'espace. Les arts du temps étant la musique, ou le cinéma, ou le théâtre, et les arts de l'espace étant la peinture et la sculpture. Et donc, ce sont des spectacles qui durent généralement très longtemps, mais on peut rester le temps qu'on veut, et on n'est pas devant quelque chose, assis dans une salle et devant une œuvre, mais on est à l'intérieur. Donc, on se promène comme à l'intérieur d'une exposition, mais il y a des événements sonores, musicaux, parfois des acteurs, et c'est ce mélange entre ces deux formes d'art m'intéresse beaucoup et m'a appris beaucoup. Et puis, ce qui est beau dans les spectacles, c'est que on se donne beaucoup de peine. Et puis, il y a trois soirées. Et puis, ça disparaît totalement. Et seuls ceux qui l'ont vu peuvent en parler. Et donc aussi, mes expositions que je fais aujourd'hui, et certaines de mes œuvres sont très, très grandes, forcément détruites après. Et donc, seulement ceux qui, par hasard, les ont vues peuvent en parler. En ce moment, j'ai une exposition à Amsterdam, dans une plus vieille église d'Amsterdam qui s'appelle Oude Kerk, qui est un très très grand lieu. Et tout a été fait pour ce lieu, tout sera détruit après. Et seulement, peut-être que ça restera dans le souvenir de certains. Mais il n'y aura plus aucune matérialité qui va rester. Et si j'avais à le faire dans un autre lieu, je ne réparerais pas les mêmes éléments, ce ne serait pas la même chose. Alors peut-être qu'un des éléments qui est à Oude Kerk pourrait être repris ailleurs, mais la configuration générale est unique et faite vraiment pour ce lieu. Et donc le spectacle m'a appris ça, m'a appris de travailler assez longtemps, tout ça pour quelque chose qui est extrêmement éphémère.
Alors dans cette église d'Amsterdam, il y a des manteaux par terre, sur le sol.
Bon, c'est une église qui est en même temps un cimetière, puisqu'il y a, je crois, 3200 tombes qui sont sous l'église. Et donc, ça m'a intéressé de travailler avec ce passé. Donc, il y a un certain nombre d'éléments...
Habiller les morts, en quelque sorte.
Vous savez, c'est plutôt que pour moi les vêtements et les vêtements usagés...
Que vous aviez utilisés à Monumenta, dans la nef du Grand Palais.
C'est... comme un corps mort, c'est-à-dire que c'est un objet qui renvoie à un sujet disparu. Il y a eu quelqu'un. Donc là, il y a eu quelqu'un, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a... on peut lire, on peut donner une partie de son temps, lire le nom des morts, et c'est reprogrammé à l'intérieur de l'église en chuchotement. Il y a aussi, là c'est un élément que j'avais déjà employé, des sortes d'hommes très stylisés qui sont deux morceaux de bois. Et quand on s'approche d'eux, ils vous posent des questions sur comment on est mort. Et si on a souffert, et si on a blessé des gens. Et donc tout ça forme une sorte de... On est à l'intérieur totalement de ce monde... Et qui, là encore, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais on peut prendre ce dont on a besoin de prendre, et ça parle effectivement de la disparition. Et il y a des grands cubes couverts de plastique noir qui évoquent des sortes d'énormes tombes. Et puis il fait froid. Il fait très froid. Et le froid fait partie aussi de l'œuvre. Et donc cette église, étrangement, se situe dans le quartier chaud d'Amsterdam. Et je m'imagine toujours que quelqu'un va entrer comme ça par hasard. Et c'est ça qui me ferait plaisir, et qui ressente quelque chose en entrant par hasard. Donc c'est...
Vous détestez être un artiste qui montrait vos œuvres dans des galeries ou dans des musées, même si vous le faites. Vous faites même en sorte, vous l'avez fait et vous le refaites, d'empêcher, je me souviens d'une exposition il n'y a pas si longtemps à Paris, à la galerie Marion Goodman, où vous exposez d'ailleurs en ce moment, où vous faisiez tout pour empêcher les regardeurs de venir voir votre travail.
Faut pas exagérer, mais disons, je travaille avec Marianne Goodman depuis très très longtemps et elles me permettent de faire des expositions qui sont vraiment une seule œuvre. Et donc il n'y a pas, là encore, on est vraiment à l'intérieur d'une œuvre. En ce moment, je fais dans la librairie, qui n'est pas la galerie, de chez Marianne Goodman, une petite exposition qui m'amuse parce que c'est des œuvres de 1974 et qui sont des œuvres joyeuses. Et comme le disait Sarkis tout à l'heure, là, il y a vraiment un côté Buster Keaton ou Chaplin que je pense avoir tout de même un petit peu. Et donc, oui, aujourd'hui, j'expose pas souvent dans les galeries. Comme je suis âgé, je fais des rétrospectives un peu partout.
Âgé, vous avez quel âge ?
72 ans, je crois.
Ça va.
Un peu des rétrospectives un peu partout dans le monde. Donc,
vous êtes devenu un trésor national, à vous tout seul.
Absolument. Mais c'est des... Voilà, donc là, il y en a une à Shanghai qui est énorme, qui doit faire 3000 m². Après ça, il y en a une à Jérusalem qui est aussi grande. Après ça, il y en a une à Tokyo. Ça, Osaka,
vous accompagnez après, toutes vos œuvres.
Non seulement je les accompagne, mais chaque rétrospective est une œuvre nouvelle pour moi.
Et c'est parce le lieu qui vous inspire et qui va modifier le projet.
Le lieu, et puis, non seulement le lieu, le cheminement. Et je m'amuse à faire des cheminements différents à chaque fois. C'est-à-dire, je fais construire des murs, et à chaque fois, c'est une autre mise en scène. Donc, les éléments sont souvent les mêmes, mais la mise en scène est totalement différente. Et puis, en fin 2019, il y aura le Centre Pompidou. Donc, il y a cette suite de très nombreuses rétrospectives qui m'intéressent à faire, mais qui sont, je veux dire, de reprendre. Vous savez, c'est comme quand on rentre le soir chez soi, on n'a rien à manger, on ouvre son frigidaire, puis il y a un vieux morceau de fromage, et puis trois tranches de jambon et deux œufs, et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et on fait revenir. Et donc, dans mon cas, je fais revenir. Et donc, chaque fois, le plat est un tout petit peu différent. Je rajoute un peu de poivre parce que j'ai trouvé un peu de poivre à un endroit. Donc, on fait revenir. Et donc, toutes ces rétrospectives sont un moyen de faire revenir.
Et pour vous, c'est aussi important de faire une œuvre qui ne sera jamais vue par quiconque puisqu'elle est installée en plein cœur du désert mexicain que de faire une grande rétrospective au Japon.
Oui, parce que ce qu'on essaie, c'est effectivement de toucher le plus de monde possible. Et je pense qu'aujourd'hui, les légendes sont plus fortes que tout, et que les récits, les légendes, les mythes sont ceux qui voyagent le plus longtemps et qui touchent le plus grand nombre de gens. Et donc, naturellement, ce que je dis est prétentieux, et peut-être que personne ne va être touché par mes mythes, mais donc cette création de mythes est une chose qui m'intéresse beaucoup. Je fais pratiquement plus d'œuvres qu'on pourrait accrocher chez soi. Vous savez, c'est aussi des périodes. C'est-à-dire que je pense que quand on est un artiste, c'est comme si on avait fait un voyage. Et ce voyage, on peut le raconter de manière très différente. Et on le raconte de manière très différente selon les âges. On peut raconter par la nourriture qu'on a mangée, par les paysages, par les gens qu'on a rencontrés. Donc c'est toujours la même histoire, mais à chaque fois, elle est différente. Et dans le stade de ma vie où je suis, l'histoire est différente et je tâche d'aller vers cette mythologie.
Dans ces mythologies que vous construisez depuis des décennies, Christian Boltanski, il y a aussi la notion prépondérante du hasard. Vous avez parlé de la chance, mais il y a aussi le hasard. Je me souviens d'une exposition que vous aviez faite il y a quelques années à Berlin qui s'intitulait « La maison manquante ». Pouvez-vous nous expliquer ce que c'était et comment le hasard tient un rôle important dans la construction de votre univers?
Si vous voulez, c'est une question de croyance. C'est-à-dire que, effectivement, c'était une maison et en 45, une bombe était tombée sur le centre de la maison et ceux qui étaient dans l'escalier A et l'escalier C étaient restés vivants et ceux qui étaient dans l'escalier B étaient morts. Et c'est une très vieille question que beaucoup de gens se sont posées. Pourquoi cela et pas cela? Alors là encore, je pense que c'est une question que se posent tous les survivants. Pourquoi je suis vivant? Et donc je pense que cette question est encore reliée à mon trauma premier. Mais c'est vrai que c'est aussi de savoir si le monde est organisé. ou si le monde est en désordre, si les choses ont une raison d'être, même si une raison d'être qu'on ne connaît pas, mais qui a une raison d'être ou qu'on n'en est pas. Est-ce que ces gens de l'escalier C avaient une raison de mourir et pas les autres? Oui, c'est ce genre de choses qui m'intéresse parce que ça pose beaucoup. Naturellement, il y a le libre arbitre entre les deux. On peut sortir à ce moment-là, mais ça pose toute la question de la croyance.
Et vous, vous sentez-vous vivant?
Je suis un très joyeux vivant, oui. Je suis un homme extrêmement joyeux. Et ça n'a pas l'air ce soir. Mais dans la vie, je suis extrêmement joyeux. J'aime beaucoup m'amuser, manger, boire, voir des amis. Je suis extrêmement joyeux. Mais justement, je pense, puisque je suis peut-être très, très profondément pessimiste, et que j'en ai fait un peu le tour, enfin, que je connais ça, je sais ça, je sais que chaque instant est à préserver, que chaque moment et chaque rencontre est merveilleuse, et que donc, effectivement, je. Par exemple, souvent, je dis ça, c'est une plaisanterie, mais j'accepte quelquefois des expositions simplement parce que j'ai envie d'aller quelque part. Et pas des grandes expositions, mais des petites expositions parce que je sais pas, par exemple, j'aime beaucoup aller à Naples et donc j'ai accepté l'exposition à Naples qui me vraiment dans un endroit pas tellement important, mais simplement je me dis, je vais passer 4 jours à Naples, ça va être agréable, 5 jours à Naples. Et donc, une fois, j'aime bien avoir une raison de voyager. Et donc, je veux dire, c'est que je profite vraiment énormément de la vie et peut-être que le. Que ce trauma initial est un peu guéri. Et peut-être que comme une longue psychanalyse, le fait d'avoir parlé de ça, d'avoir joué avec ça, m'a permis de me sentir mieux. Et d'être, je ne veux pas dire plus heureux, parce que c'est tout à fait stupide, mais disons de me sentir mieux.
N'avez-vous pas peur de l'assèchement de votre créativité?
Ça, vous savez, bon, d'abord, on a toujours peur, et il y a des périodes où on est vraiment sans aucune idée, et puis à mon âge, tout ça n'a plus aucune importance. Je veux dire, c'est un des grands avantages d'avoir cet âge, c'est que les choses sont faites, et maintenant on fait les choses purement par plaisir. Je veux dire, j'avais envie d'aller parler aux baleines, j'étais parlé aux baleines. Je sais pas si c'est créatif ou non, mais c'était une envie de parler aux baleines.
Elles vous ont répondu?
Non, elles ne me répondront jamais.
Vous allez revenir? Elles vont vous écouter cette fois-là.
Je ne pense pas. Et je pense que mes questions étaient sans réponse.
Dernière question, Christian Boltanski. Vous qui avez l'habitude de fréquenter les cimetières, vous qui travaillez parmi les tombes depuis très très longtemps, avez-vous déjà votre propre tombe?
Alors, bizarrement, je n'aime pas les cimetières. Pas du tout les cimetières, je suis très mal à l'aise dans les cimetières. Et je pense pas aller dans un cimetière. C'est des questions très compliquées que j'ai pas résolues. Mais disons, je n'ai pas du tout d'attirance pour les cimetières. Pour moi, l'âme n'est pas là. Vous savez, la seule chose, c'est que je pense que notre visage est fait comme un puzzle de tous nos ancêtres, et que nous avons le nez d'un arrière-grand-père et les yeux d'une arrière-grand-mère, et que notre esprit est aussi fait par tous nos ancêtres, et qu'on a une connaissance donnée par eux. Et donc je pense que effectivement, peut-être qu'on ne meurt pas, moi je n'ai pas d'enfant, mais que si on transmet à quelqu'un d'autre qui a un tout petit bout de vous-même. Et donc j'espère en tout cas que cette transmission, ce qui est le plus important, c'est que les choses continuent. Il faut que tout continue.
Ben merci beaucoup, Christian Boltanski. Merci d'être passé entre tous vos voyages dans ce petit studio. Merci infiniment.
Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux, je veux les deux sans sentir. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux.
jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite. Je préfère pas, je préfère l'illusion de t'avoir. J'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux.
Merci Christian Boltanski. Double actualité, donc na, ce qui signifie après, à l'église d'Amsterdam ou de Kerk jusqu'au 29 avril 2018. Et puis une exposition dans la librairie Marion Goodman à Paris. Merci à Sonia Leglen qui a réalisé cette émission, qui a été préparée par Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Jules Bruxelles, avec les conseils musicaux de Jean-Baptiste Audibert et avec à la technique ce soir Pierre-Yves Derolin. Et après le prochain journal de la rédaction, vous retrouverez comme chaque soir Mishka Assayas pour son Very Very Good Trip.